Tristan et le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. Un disque, un film, un Olympia, c'est l'année Youssou N'Dour. La presse américaine dit de lui que sa voix est si extraordinaire qu'elle semble révéler toute l'histoire de l'Afrique. Youssou N'Dour est d'abord un artiste curieux qui travaille avec Cat Stevens ou Sting. Son dernier album est évidemment une invitation au voyage. Son titre, Dakar Kingston.
Nonobstant, Yves Calvi, du lundi au jeudi à 17h. France Inter présente Rossé. L'être humain et le réverbère.
La norme, c'est la majorité, c'est pas la vérité. Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister.
En concert à Paris, au nouveau casino le 18 mars.
Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle.
Retrouvez Rossé et ses nouveaux titres dans le programme musical de France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 15h04, restez avec nous, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Écoutez, je vous appelle parce que j'ai un petit peu honte des actions de de certains de nos représentants nationaux. Samedi après-midi, grande braderie à Neuf Maisons près de Nancy, beaucoup de monde. Les élus en profitent pour faire campagne pour les prochaines régionales. Et à un moment donné, ils entrent dans un bistrot pour aller boire un coup. Le bistrot est en fumée. Et là, notre députée de Meurthe-et-Moselle, Nadine Morano, ne trouve pas mieux que de se rendre immédiatement à la gendarmerie pour aller dénoncer le gérant du bistrot. Alors, moi je trouve que dénoncer son voisin, on n'a pas changé grand-chose depuis 1942. Il y a un petit film qui sort là en ce moment, les bonnes pratiques sont toujours les mêmes. Au revoir.
Oui, salut Daniel, c'est Valentine de Cholet. Je t'appelais parce qu'en fait je suis un petit peu déçue. L'émission d'aujourd'hui a été super, hein, comme d'habitude, c'est hyper intéressant. Par contre, c'était quand même la 100e journée de la semaine, donc je trouve, enfin c'est un peu gonflé, ça aurait pu faire un truc sur les femmes, je sais pas, n'importe quoi, une table ronde, un interview, même une rediff d'un vieux reportage sur la cause des femmes, je sais pas, enfin en fait ça aurait été bien qu'on en fasse s'il n'y avait plus aucun combat à mener, mais. Enfin, le combat, il est loin d'être fini, donc ça m'a un peu... vachement déçu, en fait. Voilà, j'aurais aimé que t'en parles un peu. Alors, j'ai pas écouté le début de l'émission, peut-être que tu disais pourquoi t'en parlais pas, mais sans qu'il n'y aura pas d'égalité entre hommes et femmes, le combat continue. Voilà, bah, continuez comme ça, et puis là, j'espère que tu diras quelque chose demain à propos de ça. Bisous, salut.
Au secours, Daniel, ils sont devenus fous. Lors de la 3e marche mondiale de nuit des femmes à Toulouse, les CRS ont jeté de façon musclée les 100 ans de la journée de la femme. Absents lors de la manif de la journée, ils étaient bien présents à celle de la nuit et ont violemment frappé une jeune femme pour qui faisait un simple tag. Ils ont ensuite frappé au hasard sur tout ce qui bougeait, notamment une femme de 70 et une de 59 ans. C'était en France, à Toulouse. Je suis choquée. Au revoir.
Je voudrais dire aux gens, il faut aller voter parce que ce président-là, il a cassé les hôpitaux, la justice, l'école, les prisons, la sécurité, les sans-domicile fixe, les paysans, la pauvreté qui s'accélère. Mais si une fois dans votre vie, votez cette fois. Dites au moins non, non, non. Et j'ai oublié la poste. Pour les petits villages comme chez nous, où on va perdre la poste, le seul lien qui restait. Allez voter, votez, votez pour les régions, votez. Même si c'est difficile, votez, votez, votez. Je vous en prie. Merci Daniel. À bientôt.
Chers AMG, le repère de Vienne dans l'Isère tiendra son prochain rendez-vous ce jeudi 11 mars 2010. Au menu, une conférence débat de l'artiste et musicien Richard Montségu, qui viendra nous causer des relations entre la sociologie et la pratique artistique. Un peu de Bourdieu, un peu d'éducation populaire, et surtout, surtout, un moment d'échange riche et agité à ne pas manquer. Alors ramenez-vous à Vienne ce jeudi 11 mars à 19h45 au Bougalou Bar, au 1 Place des Carmes à Vienne. Plus d'infos, un petit tour sur la rubrique des repères sur labas.org. On vous attend nombreux et pétillants. Ciao, ciao.
Salut Daniel, salut à tous les AMG, j'appelle parce que j'ai entendu le message d'une auditrice aujourd'hui qui parlait de ses démêlés avec Pôle emploi. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on en arrive à faire la grève de la faim pour débloquer des situations, je sais pas. Moi je suis dans le même genre de situation, on me dit qu'il faut encore que j'attende 15 jours avant de peut-être recevoir mes premières allocations alors que je travaille plus depuis la mi-février. Il y a la CAF qui a arrêté de me donner des allocations parce qu'il manquait une quittance de bail de juillet 2009. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut qu'on fasse les restes de la faim? Est-ce qu'il faut qu'on vienne avec une arme face à ces gens-là? Je sais pas.
Bonjour, je voulais faire un commentaire à propos des messages des autoproclamés auditeurs modestes et géniaux. Moi je suis de gauche, je vote en général pour les Verts depuis bien longtemps, et je suis affligé à chaque fois que je tombe sur cette séquence par la certitude d'avoir raison de ces gens, quoi. Je trouve ça complètement délirant, cette lecture du monde constante. Alors vous allez me dire, vous êtes plein d'exemples qui montrent que de toute façon c'est comme ça, le monde est comme ça. Bon, moi j'ai lu Le Monde diplomatique aussi beaucoup, puis j'en ai eu un peu ras-le-bol, j'avoue. Charlie Hebdo, j'en ai aussi eu ras-le-bol, je sais pas, il faut grandir, il faut passer un peu à autre chose. Et le monde n'est pas que vu par Bernard Cassen et Ignacio Ramonet tout le temps qui nous prédisent des crises de 29, des bons, bien sûr, les choses vont mal, hein, je vous l'ai dit, on échappera à des crises dues aux réfugiés climatiques et tous ces problèmes, je ne le nie pas. Mais cette lecture, je sais pas, meurtrière, ça fout la trouille, quoi. Ces gens qui voudraient que les patrons meurent, que quand ce mec de la Poste parle des suicides de son collègue, il voudrait que son propre directeur me crève, c'est ce qu'il a essayé de dire. Là, il faut pas que ce soit nous qui mourions, mais eux, quoi. C'est hallucinant, quoi, je sais pas. Et cette nana qui fait une grève de la faim parce qu'elle a pas sa carte d'identité, je sais pas ce qu'elle a foutu. Moi aussi, j'ai des problèmes administratifs et c'est le bordel des fois. Et aussi, je suis au chômage et je passe des concours, on se démerde, quoi. Et là, on vient au téléphone, on fait des grèves de la faim, on s'expose, c'est je sais pas, c'est la Star Academy de la connerie, quoi. Je veux pas que là-bas si j'y suis s'arrête, mais cette séquence d'auditeurs, c'est vraiment l'opposition de la France des Mongoliens, de racistes stupides avec la France des AMG, là, complètement bloqués de leur côté sur des trucs. Enfin bon. Voilà, alors écoutez, hein, bonnes émissions et au revoir. Merci de votre attention.
Alors Mermet, c'est bien ce que tu fais aujourd'hui. C'est vraiment bien. Parce que bon, je n'en parle jamais sans émotion. Romero, il a été assassiné alors qu'il disait la messe, alors qu'il donnait l'hostie à celui qui lui a tiré dessus. Et depuis 30 ans, j'attends, moi qui vais à la messe pratiquement tous les dimanches, qui croit en Dieu et qui croit dans le message de Jésus-Christ, j'attends que cet homme-là, d'une façon ou d'une autre, soit reconnu comme tel, c'est-à-dire soit reconnu comme celui qui a été le témoin et le martyr de sa foi. N'oublions pas, Romero, c'était un mec de droite. Il vient des milieux conservateurs, il a rencontré la misère, il a rencontré les pauvres, et il s'est consacré à eux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que toute une hiérarchie catholique a purement et simplement abandonné cet homme. Et vraiment, ce que tu fais là aujourd'hui, Mermet, c'est bien. Je sais qu'on ne se retrouvera pas à l'église dimanche prochain. Chacun, après tout, ses choix, chacun ses convictions. Bon, c'est pas le problème. Mais parler de Romero aujourd'hui, 30 ans après, c'est magnifique. Salut.
Merci. Eh bien, merci. Alors, petite précision quand même, je crois pas que Oscar Romero ait été tué par celui qui lui donnait l'hostie. C'était un tireur, on l'a évoqué hier, qui était à l'extérieur de cette fameuse chapelle qui est toujours d'ailleurs dans l'enceinte de cet hôpital. En tout cas, merci pour ces messages. ça bouge pas mal, c'est sympa, dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Et puis là, on continue donc au Salvador aujourd'hui. Mais auparavant, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est le prochain enregistrement de notre émission mensuelle avec l'équipe du Monde diplomatique. Eh bien, figurez-vous que nous allons enregistrer cette émission en public, et pas n'importe où, à Paris, dans un endroit qui s'appelle La Java, qui est exactement, je vais vous dire l'adresse, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous le donnerai tout à l'heure, c'est à Paris, mais j'ai pas, on a oublié de me donner l'adresse, 105 105 rue du Faubourg du Temple. 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement. Donc un endroit, un ancien dancing, enfin qui fait encore dancing, très Parigot, très Piaf venait chanter là, Django y a joué, et le lieu existe toujours. Et ça n'a pas encore été customisé. Voilà, enfin c'est un très bon endroit. Donc on a décidé d'enregistrer, de faire un enregistrement public avec l'équipe du Monde Diplomatique, et vous êtes évidemment invité, c'est gratos, dans la limite des places disponibles selon la formule consacrée. Alors comment faire pour venir? C'est jeudi prochain, ce jeudi 11 mars à 18h, jeudi 11 mars à 18h, eh bien il vous suffit d'envoyer vos coordonnées, c'est-à-dire nom et numéro de téléphone, à l'adresse suivante, le diplo la java, @gmail.com. Je recommence, le diplo la java, sans accent, sans rien du tout, tout attaché, le diplo la java, @gmail.com. Voilà. Et on vous enverra une petite confirmation. Donc, jeudi 11 mars, 18h, 105 rue du Faubourg du Temple, la Java et le diplôme enregistrement public. Voilà, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Donc aujourd'hui, on continue à Salvador, à San Salvador. C'est même la dernière émission de cette série. Et on va finir autour du film de Christian Poveda, La Vida Loca, film donc que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que vous avez vu et revu peut-être, qui est un très très beau film, un très grand documentaire, photojournaliste Poveda, qui a passé plus de 2 ans avec les jeunes dans les maras, les bandes de San Salvador, et qui a produit ce film, monté ce film, et qui a été assassiné au moment même de la sortie de ce film. On ne sait pas très bien pourquoi, comment et qui l'a tué, mais enfin tout indique que ce serait l'une des bandes, enfin des jeunes, d'une des bandes qu'il a filmé, qu'il l'aurait abattu. Ce qu'il n'y a pas dans ce film, il y a beaucoup de choses dans ce film, on comprend, il nous fait sentir, ressentir la façon dont vivent ces gens, ces jeunes dans ces bandes, mais il manque un peu d'explication peut-être autour, d'histoire, de tenant et d'aboutissant. C'est pas le rôle forcément d'un documentariste que d'indiquer tout ça. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'histoire, sur le contexte de ces bandes dans ce pays et dans cette ville. D'ailleurs, pas seulement dans ce pays, puisque les bandes, les fameuses maras, s'étendent, on les retrouve en Honduras, où nous étions, au Guatemala, au Mexique, et même au Nicaragua, et puis évidemment dans le sud des États-Unis, en Californie, etc. C'est par dizaines de milliers que se comptent aujourd'hui les membres de ces gangs, et c'est une préoccupation majeure évidemment, notamment dans ce petit pays du Salvador. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonsoir, un auditeur modeste, très modeste de Toulouse. C'est à propos d'un Sébastien qui habite Toulouse depuis 5 ans. Il est marié, il a 2 enfants de 3 et 2 ans. Bien, il a un grave défaut, ce Sébastien, c'est qu'il n'est pas de France. Et mercredi, le réseau Éducation sans frontières 31, la FCPE 31, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD et bien sûr l'école maternelle Pêche David et tous les parents de l'école vont venir se rassembler devant la préfecture à 18h pour soutenir Sébastien dans ses démarches, puisque Sébastien est menacé d'être expulsé imminemment. Voilà, donc on invite tout le monde à nous rejoindre et à souvenir à Toulouse ses enfants et sa famille et Sébastien. Merci à tous.
Oui, bonjour, Dominique de Savoie, délégué syndical CGT à France Télécom. Quelques nouvelles de France Télécom, on croit que les choses s'arrangent, mais en fait, pas grand-chose de nouveau sous le soleil, les négociations n'avancent guère. Je voudrais quand même rappeler que ces derniers jours, on a annoncé les résultats financiers de France Télécom, les dividendes aux actionnaires sont supérieurs aux résultats nets de l'entreprise. moi je négocie nationalement pour la CGT et malheureusement il y a des grandes déclarations d'intention, mais extrêmement peu d'actes concrets, de propositions concrètes, de moyens donnés pour que les choses changent. Donc voilà, je voulais lancer ce message aux AMG pour dire qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Hein. Aujourd'hui, comme hier, le combat continue.
Bonjour, c'est Eliane. Les AMG du Pays Basque Sud-Land se réuniront comme d'habitude le deuxième mercredi du mois au Trinquet Saint-André de Bayonne. Bienvenue à tous les adeptes de la philosophie du mou, bienvenue à ceux de la philosophie du non-mou et bien sûr aux alorcoyens. Nous avons invité le célèbre philosophe Botule. Le fait qu'il n'a pas confirmé sa venue est plutôt bon signe. Ou alors quoi ? Quoi qu'il en soit, rendez-vous aux AMG à Bayonne, 20h30. Et en attendant, on peut réécouter l'émission concernant Botule sur labas.org. À mercredi.
Estamos en la vela del homeboy.
C'est la veille et morteur de notre camarade. Et on sait que Simon avait du sang qui coulait dans ses veines, du sang de la 18. Le même que celui qui coule dans les nôtres. Et jusqu'au bout, nous irons. La 18 est la plus grande et c'est tout. On a perdu l'un des nôtres. Mais vous savez qu'avec la 18, on ira toujours de l'avant.
A veces en el orquesto un rocío un amigo se va y su alma camina hacia la eternidad.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la messie J'y suis, avec Antoine Chao, Salvador, la vida loca.
Flight number 2, arriving from New
York. Estos son los jóvenes que pusimos a la panadería.
Ça, c'est les jeunes qu'on avait, qui avaient travaillé à la boulangerie.
En la cárcel, está muerto.
Mort.
Este está muerto.
Mort.
Este está en la cárcel.
Celui est en prison.
Este está muerto.
Il est mort.
Esos son los que salen en la película.
Ça, c'est ceux qu'on voit dans le film, par exemple.
Là, ce sont les... Oui, bien sûr, on la reconnaît. Les gens qui apparaissent dans le film de Poveda, hein. Il y en a 15. Alors, dis-nous ce qu'ils sont devenus, les 15, là, qu'on voit dans le film.
La mayoría está preso haciendo de 50, 60, hasta 200 años de cárcel.
La plupart sont en prison pour des très, très longues peines.
Montre, qui sont en prison.
Ella está libre, pero...
Elle est en liberté.
Por la película pasa encerrada en su casa y con sus niños y con el tatuaje.
Mais à cause du film, elle est cachée, elle doit vivre cachée.
Celle qui a des tatouages sur le visage, et ensuite...
Este está haciendo 120 años.
Il y en a un qui a pris 120 ans.
Esta está presa en su casa.
Donc elle est prisonnière dans sa maison. La petite es Little One.
Esta es la muchacha que le arreglan el ojito.
Donc ça c'est la fille qui avait perdu son œil.
Este está preso. Este está preso. Este está muerto. Él está muerto.
Celui-là il est en prison. Celui-là il est mort. Il est mort.
Lui est en prison. Está haciendo creo que 40 o 35 años.
Elle a pris 40 ans.
Este también está preso y él está muerto.
Lui il est en prison et lui est mort.
Estos que dimensioné muertos son los que matan en la película.
Donc ceux-là, il y en a plusieurs qui sont déjà morts pendant le film.
Poveda les dio la oportunidad de la panadería y comenzaron a trabajar en la panadería. Cestion
leur a donné la chance de pouvoir travailler dans la boulangerie.
Y a través estaban en la panadería y en la comunidad, lo fueron matando.
Et alors qu'ils étaient dans le quartier et qu'ils travaillaient à la boulangerie, ils ont été assassinés.
En El Salvador hay un rating de 13 muertos diarios.
Au Salvador, on estime qu'il y a 13 morts par jour.
13 morts violentes des bandes par jour.
Violentos, no solo
des morts violentes, pas parce forcément que... des membres des bandes.
Thank you.
Manger, pisser, baiser ou tuer, c'est pareil. Ici, l'amant est chez elle, dit-on à San Salvador. Au Salvador, on peut dire la même chose au Honduras, on peut dire la même chose au Guatemala, on peut dire la même chose dans beaucoup de régions du Mexique, on peut dire la même chose dans une partie de Los Angeles ou de New York. Ici, la mort est chez elle, manger, pisser, baiser ou tuer, c'est pareil. Vous avez reconnu là la logique des gangs, la logique incompréhensible des gangs, et cette fascination pour la mort et le côté la mort, même pas peur. Voilà ce que Christian Poveda voulait filmer. Et voilà de quoi il est mort le 2 septembre 2009. Qui a tué Christian Poveda? On a appris récemment que 4 nouveaux membres du gang du Salvador, auxquels le reporter photographe Christian Poveda avait consacré ce documentaire, ont été arrêtés dans l'enquête sur son assassinat en septembre dernier, selon la police. Au total, 32 suspects ont été arrêtés, tous à l'exception d'un policier, sont membres présumés de la Mara 18, c'est-à-dire le gang qui l'a filmé tout au long de ce film, La Vida Loca. Les premières arrestations avaient été effectuées peu après la découverte du corps avec 4 balles dans la tête le 2 septembre 2009 près de la capitale, San Salvador. Les 4 hommes qui ont été arrêtés ces jours derniers, jeudi, seront poursuivis pour complicité. Ils étaient présents sur la scène du crime dont ils ont contribué à surveiller les accès, selon la police. Poveda, au moment de sa mort, avait 54 ans, il était né en France de parents espagnols. Il avait passé 2 ans avec la Mara 18, avec le gang, la bande 18, pour réaliser son reportage. Et l'ordre de le tuer aurait été donné depuis sa prison par un des chefs de ce gang, Nelson Lazo Rivera, auquel le policier arrêté depuis avait fait croire que le reporter était un indicateur de police. On sait aussi que Poveda avait fait du Salvador son pays d'adoption. Il avait couvert auparavant la guerre civile, 1980-1992, 12 ans durant. Il a suivi cette guerre et il s'était installé à San Salvador en 2003. Il y a quelques années, il pensait y poursuivre sa vie. Il faut rappeler que dans ce pays, mais aussi bien de l'Honduras où on était, et dans des pays voisins, ces gangs étonnants sèment la terreur, sont un mystère aussi dans leur fonctionnement, tant il y a quelque chose là de... On ne voit pas toutes les causes, on peut les chercher, on en dénombre certaines quantités, on va évoquer ça, mais il y a quand même quelque chose là qui reste une énigme, celle évidemment de la mort et de la violence. Mais, selon cette dépêche que j'ai sous les yeux et qui date du 25 février 2010, peut-être que le rêve de Poveda est en train de s'accomplir, mais il faut mettre plein de points d'interrogation, plein de doutes dans cette nouvelle. Les deux principales bandes de San Salvador, c'est-à-dire la Mara 18 et la Mara Salvatrucha, qui se démolissent depuis des années, non seulement à San Salvador, mais partout dans toute cette région, eh bien, ont annoncé une trêve, ce qui évidemment suscite l'espoir dans le pays où on compte, on vient de l'évoquer, 14 homicides, 14 morts violentes par jour. Alors on dit 14, on dit 17, on dit 18, enfin on veut dire beaucoup par là, et on veut dire que on est très impuissant face à ce phénomène. Mais il semblerait, à en croire encore une fois cette dépêche, que ce que voulait Poveda, un journaliste engagé, c'est-à-dire le rapprochement entre ces bandes, qu'il y ait une négociation et qu'on arrive peut-être à un accord, comme on a réussi à en signer en 1992 entre le gouvernement et la guérilla, eh bien qu'on puisse se parler. Alors ça semble un rêve qui se réalise, celui de Poveda. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 16h. dans la basse, j'y suis, San Salvador, La Vida Loca.
Français?
Ah ben, monsieur parle français.
Oh, comment allez-vous?
Bien, bien, bien.
Très bien.
Est-ce que tu peux te présenter, toi et ton association, en quelques mots?
Mi nombre es Luis Ernesto Romero.
Je m'appelle Luis Ernesto Romero.
Soy el director de la organización Homies Unidos.
Je suis le directeur de l'organisation Homies Unidos.
Hablando un poco sobre un pequeño bosquejo histórico.
Alors, pour faire un petit rappel historique.
Nosotros nacemos el 2 de noviembre de 1996.
Alors, on est né le 2 novembre 1996.
Y nacemos a raíz de un estudio que se da en el Instituto de Opinión Pública de la UCA.
Cette organisation existe suite à une étude faite par l'Institut d'Opinion Publique de l'Université UCA.
Y lo abordamos desde finales de los 70 y principios de los 80.
Une étude sur les années 70 et 80.
De gente que huye por la guerra civil en El Salvador.
Donc des gens qui sont partis d'El Salvador du fait de la guerre civile.
Y entonces la mayoría de personas se enfocan en los Estados Unidos por el famoso sueño americano.
Et la plus grande partie des migrants sont partis aux États-Unis du fait du rêve américain.
Entonces entre 1980 y 1992.
Entre 80 et 92.
Estados Unidos de Norteamérica decreta bajo los derechos humanos que no pueden deportar a ningún salvadoreño.
Les États-Unis décrètent qu'ils n'expulseront aucun salvadorien.
Pero también no abren espacios ni oportunidades para la inmigración o para legalizar a los migrantes salvadoreños.
Mais ils ne favorisent pas pour autant l'intégration des migrants salvadoriens.
Y entonces podemos estar en los Estados Unidos mientras hay guerra en el país, pero
donc on
no
a
tenemos...
le droit d'être dans, aux États-Unis pendant que la guerre détruit notre pays.
Pero no podemos tener ninguna ilusión o hay muy pocas oportunidades para una legalización en los Estados
Unidos.
Mais
on a peu de chances de pouvoir être légalisé.
Entonces, para nuestras familias fue muy difícil el encontrar empleos no formales.
Pour nos familles, ça a été très difficile de trouver du boulot, formel ou informel.
Y esto provocó que nuestras familias ilegalmente fueran acechados por la explotación laboral norteamericana.
Donc nos familles ont été exploitées, ont été victimes de l'exploitation par le travail aux États-Unis.
Los salarios muy pequeños, ¿no? Y entonces Por eso tenían que tener dos o tres trabajos para sostener sus familias y poder mandar remesas familiares.
Donc il leur fallait faire deux trois boulots en même temps pour pouvoir faire vivre leur famille et en même temps envoyer de l'argent au pays.
Voilà, on a ceux qui ont vu le film se souviennent de ce garçon qu'on voit, Luis Romero, qui s'occupe de la boulangerie, si vous vous souvenez de... Eh bien, c'est lui qui nous parle et qui est l'animateur de cette association Homies Unidos, qui veut dire à peu près les membres des gangs unifiés. C'est cette fameuse unification qui est le rêve, évidemment, qui était le rêve de Poveda et qui est aussi leur intention. Alors il a un passé chargé, le camarade de Luis Romero. Lui, il se présente comme un ancien de la bande 18, de la Mara 18. Il a été arrêté 36 fois. Il fait partie de ceux qui ont fui le Salvador pour les États-Unis. Il raconte là, à travers cette expérience-là, c'est aussi sa propre expérience dont il parle. Et lui, et puis ceux qui sont dans son association, tentent de faire un pont entre la vie normale et la vida local, si on peut dire, c'est-à-dire celle des bandes.
Et entonces teníamos una oportunidad que Norteamérica ofrecía educación de primero a bachillerato.
On pouvait profiter quand même de l'éducation primaire jusqu'au bac gratuite que nous proposaient les États-Unis.
Donde teníamos oportunidad de transporte y comida y salud.
Avec des aides pour le transport, la santé et la nourriture.
Pero como pobres o como personas inmigrantes tuvimos que empezar a sobrevivir en las comunidades más pobres o los guetos en Estados Unidos.
Mais étant pauvre et migrant, on a été obligé de s'installer dans les quartiers, dans les ghettos les plus pauvres des États-Unis.
Y tuvimos que empezar a sobrevivir bajo ese sistema inédito de violencia y
il a fallu qu'on survive dans ce milieu inédit de violence.
Entonces esto provocó que varios de los jóvenes que íbamos a las escuelas en las comunidades pobres encontráramos la discriminación racial.
Nos jeunes se sont retrouvés confrontés au racisme, mm-hmm. à la discrimination raciale.
Y entonces allí empezamos a ver que habían grupos organizados en pandillas, jóvenes organizados en pandillas,
protegiendo sus propias comunidades. On a été confrontés à des groupes qui étaient organisés en bande et qui défendaient les intérêts de leur propre communauté.
Y fue como una forma de empezar a integrarnos a esta clase de organizaciones para poder sobrevivir ante tanta adversidad.
Et donc c'est comme ça qu'on s'est organisé nous aussi en bande pour pouvoir survivre dans autant d'adversité.
Y aprendimos entonces a sobrevivir como pandilleros.
Y on a appris à survivre en tant que membre de bande, de gang, de quartier.
Entonces quiere decir que entre el 80 y el 90 los más jóvenes aprendimos a vivir una vida entre pandillas, otros lograron su sueño americano y otros todavía están en el proceso.
Donc entre 80 et 90, nous sommes ou devenus des membres des gangs, certains ont réussi leur rêve américain et d'autres sont toujours en train d'attendre d'être légalisés ou sont dans un entre-deux.
En el 92 se firman los acuerdos de paz en Chapultepec, México.
En 92 sont signés les accords de paix à Chapultepec au Mexique.
Y se acaba la guerra.
La guerra se termina ici.
Hay una supuesta paz en El Salvador.
Il y a une supposée paix au Salvador.
Que queda el país en posguerra.
Donc le pays est en post-guerre.
Pero Estados Unidos de Norteamérica utiliza esto para deportar, o para crear una deportación masiva de salvadoreños que no pudieron legalizarse.
Et les États-Unis profitent de la situation pour déporter massivement les salvadoriens qui n'avaient pas réussi à obtenir leur régularisation.
Ah, après le traité de paix, il y a un renvoi massif de salvadoriens vers le Salvador.
La deportación masiva comienza con miles y miles de salvadoreños al principio y a la fecha.
C'est des milliers au départ qui sont expulsés, des milliers par jour.
Inclusive aviones de la Armada norteamericana, esos que transportan tanques y otras cosas.
Y même des avions militaires énormes, des cargos de l'armée.
Se abre la cola. Ahora vienen en transporte aéreo comercial, ¿verdad?
Mm. Maintenant, c'est dans les... C'est dans les avions de ligne hein, qui sont expulsés.
Todos los días viene un avión a las 2 de la tarde con deportados. Todos los días a las 2 de la tarde entra un avión con deportados.
Tous les jours à 2 heures de l'après-midi arrive un avion avec des expulsés.
Yeah, 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 yeah. Bienvenido. radioemisora, selva de cemento, sin paz, ni ley, ni sentimiento, donde corre la violencia por las calles, como un río atormentado por los valles. Caimanes, culebras, ratas, rateros, sapos y chulos, putas, rayas, pistoleros, todos en la misma jugada. Te atacan por la espalda, te dejan sin nada, te matan por una mirada mala. Silban los pájaros como las balas, y está la tentación de Lucifer que te jala. Salvaje, no te visaje, son cuatro paredes, o estés bajo la tierra. Simón, el más fuerte resiste, el débil no existe. Llegaste loco de contento y llorando saliste. Jibaritos sufridos, sueños partidos, padres en líos, hijos perdidos en este laberinto.
Entonces, en esa deportación masiva vinieron varios jóvenes organizados en pandilla.
Donc pendant ces campagnes d'expulsion sont arrivés, sont rentrés ici des jeunes qui étaient organisés en bande.
Entonces en El Salvador habían quedado muchos jóvenes que habían perdido a sus padres en la guerra o gente que emigró hacia los Estados Unidos y fueron con estos jóvenes deportados, fueron como un modelo ejemplar para ellos o un modelo nuevo de vestir, de hablar, de...
Alors, au Salvador, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient ou perdu leurs parents à la guerre ou qui étaient éloignés de leurs parents, qui étaient partis au nord, qui avaient migré aux États-Unis. Et ces jeunes, un peu désorientés, ont pris comme exemple ces rapatriés qui s'habillaient différemment, qui parlaient différemment, qui avaient des habitudes nord-américaines.
Et entonces, entre 1992 et 1996, empieza a incrementar la violencia de jóvenes.
Donc, entre 92 et 96, a commencé à augmenter la violence ici entre jeunes, la violence des bandes, des gangs ici.
Y es de ahí donde nace la iniciativa de crear el estudio que hace el Instituto de Opinión Pública y donde nace Homies Unidos.
Et c'est à ce moment-là qu'a été faite cette étude par l'Institut d'Opinion Publique, qui il permet à 22 jeunes des bandes de devenir participants, de participer à cette étude, à cette enquête.
Estos 22 jóvenes de pandillas son los que al terminar el estudio, al realizar el estudio como co-investigadores, al ver el resultado del estudio, deciden organizarse.
Et ces 22 jeunes, donc, qui ont été co-enquêteurs sur cette étude, ont décidé à la fin du travail de s'organiser pour créer Homies Unidos.
Homies Unidos son siglas.
En fait, ce sont des sigles, Homies Unidos.
Quiere decir hombres y mujeres en inserción social.
Des hommes et des femmes en insertion sociale au Salvador.
Entonces, queda como nombre de pandilla.
Ça reste comme un petit peu un nom d'une bande, mais en même temps, ça a cette signification sociale.
Où en est le phénomène? On a l'impression que le phénomène est en train d'augmenter, le phénomène des bandes.
Si, mientras no mejoremos la calidad de vida de nuestro país y no tengamos por lo menos lo que la gente necesita, un lugar estable donde vivir, salud.
Tant qu'on n'améliorera pas les conditions sociales, les conditions de vie, que les gens n'auront pas un logement,
la gente va a ver cómo sobrevive.
Les gens trouveront des moyens de survie.
Tenemos mucha gente que dicen que las pandillas son las que manejan el crimen organizado de las drogas.
Certains disent que c'est les bandes qui gèrent le trafic, le narcotrafic.
Y hay que notar que en realidad son víctimas del narcomenudeo, de los grandes masas que hay.
Alors qu'ils sont les victimes de la vente au détail.
Cristian Poveda decía que ya somos el tercer país consumista en el mundo.
Christian Poveda disait qu'on était le troisième pays au monde consommateur de drogue.
No sé si en realidad el dato era muy verídico, pero en realidad al ver la situación del que estamos pasando veo que sí hay una.
Je sais pas si les chiffres sont exacts, mais en tout cas quand je vois la situation du pays, oui, il y a quelque chose de ça.
Quel est le nombre de jeunes qui sont impliqués dans ces gangs?
Supuestamente, según los censos de la policía, habla de 22.700.
Les policiers parlent de 22 700 membres des bandes.
Pero como Homies Unidos y como trabajando la población creemos que
andan. Mais comme Homies Unidos, c'est comme travailleurs de rue, nous on parle de 40 000.
Del 92 al 2001 considerábamos que los jóvenes se metían a las pandillas a los 14.5 años.
Donc à partir de 92 jusqu'à 2006, on estimait que les jeunes rentraient intégraient les bandes à partir de 14 ans et demi.
Y ahora estamos teniendo jóvenes que están ingresando a las pandillas a los 7 años.
Y maintenant il y a des jeunes de 7 ans qui intègrent les bandes.
Encuentran que son libres y pueden hacer lo que quieran.
Ils rencontrent la liberté, la possibilité de faire ce qu'ils ont envie.
Simple y sencillamente es tener lo que necesitan.
C'est juste, ils arrivent à avoir le juste nécessaire.
Cuando sale en la televisión que han agarrado una narcolancha o una narcoavioneta, tampoco he visto pandilleros ahí involucrados. He visto
personas. Et à chaque fois qu'on voit à la télé des véhicules du narcotrafic, des bateaux, des avions ou des voitures qui sont arrêtés, je vois jamais dans ces arrestations des gens à nous, des gens de nos bandes.
No le dijeron nada, no le hablaron nadita, solo a lo que venía. Era un muchacho delgado como ti, con camisa hasta acá, pero camisa como dos de suéter, hasta acá. No parecía pandillero. Estamos hablando de las 6 de la mañana y el Puyo estaba sentado allí donde va la mesa. Uno acá y el otro lado del teléfono. No, hombre, cuando veo que hizo de pum, pero le tiró como a metro y medio de distancia. Es que le disparó el suyo, bajó la grana así y lo tenía que rematar ahí.
Han caído, cuando caerán, cuando me alivio. Ellos por malentendidos. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos caerán, cuando me alivio? Todos supieran que son especiales en la mano de Dios. El enemigo les ha dicho que ustedes deben morir tirados en una cuneta, por el piso, por la droga. El enemigo ha dicho, ey, él los quiere ver tirados, muertos así. Jesús te quiere dar vida. Él ha venido, dice la Biblia, para dar vida y vida en abundancia. Mas el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Viene para hurtar la mejor edad de tu vida, la juventud.
Quetzaltepeque.
Esa es la prisión Quetzaltepeque.
Quetzaltepeque. Acá en San Salvador.
Sí, sí, a San Salvador, ça, oui.
Sí, San Salvador. Programa de derechos humanos.
Moi, je m'occupe du programme de pour défendre les droits de l'homme.
Y tu travailles en prison y tu vas en prison travailler?
Sí. Trabajamos en las cárceles. La situación de la problemática es que
on travaille dans les prisons, oui.
Es de que muchas son violaciones a derechos humanos, tanto. Nosotros no estamos en contra de que el Estado cumpla con su fin reivindicador del castigo de la de
delito. No, on n'est pas contre le fait que l'État fasse son travail et puis punisse quand il y a délit, mais on a affaire souvent à des violations des droits de l'homme.
Pero también estamos a favor de tanto un proceso reivindicativo a la víctima, también el victimario el goce de sus derechos humanos.
Mais nous, on veut effectivement défendre les victimes, mais aussi que ceux qui sont condamnés, punis, puissent réclamer leurs droits.
Voilà, on est avec Miguel de l'association Mis Unidos à San Salvador, donc, avec ces jeunes issus des bandes, là en l'occurrence issus de la Mara 18, Diese Ocho, et qui donc, vous comprenez, essaye de, à travers cette association, de trouver une solution pour réintégrer leurs frères. Il faut dire au moins frères, parce que la bande, le gang, la pandilla est une famille de substitution pour ces jeunes, ces gamins qui sont absolument perdus, isolés, orphelins, rejetés, avec sur il y a 6 millions d'habitants au Salvador, plus 3 millions qui sont à l'extérieur, qui sont aux États-Unis, qui sont immigrés avec papier ou pas papier. Donc ça dit assez tous ces hommes qui sont partis, quelques femmes, mais surtout des hommes qui sont partis aux États-Unis, ben les mômes restent là, à
livrés à eux-mêmes, plus la guerre qui a duré plus d'une décennie, etc. Donc ça fait des familles désarticulées et la bande devient la famille. On est vraiment frères, on est vraiment sœurs aussi. Il y a des filles qui sont dans des conditions très difficiles et très violentes, elles aussi. Mais c'est une famille de substitution. Et encore une fois, très, très, très violente, une violence sans limite, qui a l'air sans limite et qui a l'air sans borne. Et les jeunes de Homies Unidos essaient de faire ce qu'ils peuvent.
Estas son las fotos del interior de un sector del penal en el cual están albergadas mujeres, madres de familia con sus hijos.
Une prison de femmes où sont aussi incarcérés aussi des jeunes mères.
Y en este momento de esta fotografía nos encontramos con unas contrapartes para desarrollar un trabajo en el componente de salud.
Donc là on travaille sur un programme de santé.
Entonces lo que estamos haciendo es encontrando las deficiencias en el sistema para apoyar de alguna manera el componente de salud integral enfocado a mujeres y niños.
Donc nous on essaye de trouver les failles dans la et d'y remédier au niveau de la santé des femmes et de leurs jeunes enfants, donc des jeunes mamans.
Toi-même tu as séjourné, tu es allé en prison, tu as fait de la prison?
Sí, estuve en la cárcel y por eso es que tenemos esa oportunidad de acercamiento, pues
oui,
porque
moi,
nos conocemos.
Oui, moi j'ai fait de la prison aussi, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de rentrer en contact parce qu'on se connaît.
Combien de temps t'es resté?
Dos años.
Est-ce que tu peux me raconter comment toi tu es rentré dans une bande quand tu étais jeune? Quand tu étais encore plus jeune, que tu n'étais pas vieux.
Pues, yo tenía 14 años.
Moi j'avais 14 ans.
Y como todo joven buscaba identidad.
Et comme tous les jeunes, je cherchais une identité.
Buscaba amistades, buscaba
de l'amitié,
convivencia,
de la convivialité.
Muchos de nosotros que no teníamos padres o un afecto de hogar buscamos eso también.
Beaucoup d'entre nous qui n'avions pas de famille, pas de foyer, c'est par ce biais-là qu'on essayait de combler ce manque.
Pero ninguno de nosotros que usted puede entrevistar con el corazón en la mano le va a decir que buscó delinquir.
Mais personne ne vous dira que c'est la délinquance qui l'a attiré.
En aquel tiempo queríamos solo pasarla bien.
Nous, on voulait juste s'amuser à ce moment-là.
La situación fue que el tiempo fue evolucionando, fue cambiando.
Et après, les temps ont changé.
Y las situaciones fueron siendo un poco más complicadas para subsistir.
Et les situations et les conditions de vie se sont compliquées, c'est plus difficile.
Entender el contexto social de nuestro país. Con 12 años de guerra,
il faut prendre en compte le contexte social du pays après 12 ans de guerre.
Con más de 100.000 muertos,
avec plus de 100.000 morts.
La mayoría de ellos hombres,
la plupart des hommes.
Padres de familia,
des pères de famille.
Dejando niños huérfanos,
qui ont laissé des orphelins.
Entonces todo eso es lo que esos niños hoy son los adultos que andan aquí combatiendo una guerra.
Et tous ces jeunes et tous ces enfants sont maintenant les jeunes qui sont dans cette guerre.
Porque es una guerra entre las dos pandillas.
Parce que c'est une guerre entre les deux bandes.
Cada quien busca una identidad.
Chacun avec son identité.
Y la vio reflejada en unas calles.
Et ils trouvaient cette identité dans la rue.
Ahora la identidad no la puede uno perder. Yo puedo seguir siendo 18, pero no soy activo en violencia o no delinco.
Mais le fait d'être ou pas dans la bande n'implique pas d'être délinquant. Moi, je fais partie de la 18, mais je suis pas délinquant.
Somos muchos los que estamos así.
On
pero
est
lo que
lo,
la diferencia de, nos, de en mi caso, yo vine aquí beneficiario de un curso de computación.
Moi, je suis venu ici et j'ai pu profiter d'un cours d'informatique.
A un año de todo ese proceso, yo me encuentro aquí laborando, yo voy a reuniones.
Et je me retrouve ici à travailler, j'assiste à des réunions.
Defendemos una postura democrática de que creemos que este problema de violencia se puede resolver con diálogo.
Nous, on défend une position démocratique qui veut qu'on puisse régler ce problème par le dialogue.
Yo viví el mano dura, super mano dura, vi el ejército en las calles miles de veces.
Les programas de l'État très répressif, le programa mano dura, super mano dura, avec l'armée qui était très violente envers nous.
Y no funcionó, pero lo que sí funcionó fue un programa de un proyecto desde las perspectivas de los jóvenes.
Mais ce qui marche, c'est des projets qui sont montés par les jeunes eux-mêmes.
Est-ce que tu fais confiance à ce nouveau gouvernement?
Y sí, se confía mucho más en este gobierno que en los anteriores cuatro gobiernos.
Y on a beaucoup plus confiance dans ce gouvernement que dans les quatre précédents, oui.
Yo creía en este proceso.
Ça va,
attendez les gars.
Vous
savez qu'on va fêter mon anniversaire, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a des copains qui sont tombés là. Simon est tombé. On fasse une minute de silence pour lui et pour tous les copains, les camarades qui sont tombés. Je me souviens de mes copains, c'était vraiment mes frères. Et j'aimerais qu'ils soient là encore aujourd'hui.
Alors,
je voudrais que tous ensemble on fasse une minute de silence pour mes potes. Moi je me sens heureux ici. Trois fois heureux. La 18, c'est l'amour. Regardez comme je suis, les gars. Mais aussi, c'est de la rigueur. Il faut que ce soit bien clair. Si je vous le dis.
Rencontrée avec Antoine à San Salvador, elle est devenue conseillère pour la sécurité publique et elle a longtemps été au contact de ces bandes. Aujourd'hui, elle fait partie de ceux qui, dans ce petit pays, cherchent une solution. Et voilà son analyse. C'est des gens qui sont dans le besoin. Vous me dites, ce sont des gens qui sont dans le besoin. Or, ce sont des gens qui trafiquent, qui font toutes sortes de trafics, à commencer par le trafic de la drogue. Et ça rapporte de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans autant de trafic et qu'ils sont toujours dans le besoin?
Es que hay un mensaje equivocado, porque los líderes, las grandes cabezas de que manejan el narcotráfico, no. Muchos no son pandilleros, son gente que está bien ubicada dentro de la estructura del Estado.
Il faut pas se tromper, les narcotrafiquants, ceux qui sont vraiment les gros bonnets, c'est pas des membres des gangs, c'est des membres qui sont haut placés dans le système de l'État.
Del Estado, de la sociedad,
de la société,
empresario,
dans le patronat.
Este tipo de gente, son los tontos útiles.
C'est les idiots utiles. Ce sont les idiots utilisés par le système.
Tienen un perfil criminológico propicio para el manejo de toda esta gente.
Ils ont le profil criminel idéal pour tous ces gens qui les manipulent.
Ellos, la gente que piensa, es la gente que tiene los contactos, es la gente que tiene que evadir impuestos, es la gente que tiene cantidad de formas avionetas, como ingresar la droga, etc.
Ceux qui pensent à tout ça, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des avions, ceux qui payent des impôts et qui font un gros business.
Pero estos son los que lo venden en pequeña cantidad.
Eux, ce sont les revendeurs au détail, les petites mains.
Los que utilizan para que usen un arma, para que secuestren, para que hagan eso. Pues, pero
ceux qui font les bases œuvres, qui peuvent tuer, qui peuvent prendre des otages.
Y la justicia únicamente llega a ellos, no llega a los líderes.
Mais la justice s'acharne sur eux, ne va que vers eux et pas vers les leaders, vers les chefs mafieux.
Vous dites tous ces gens qui les manipulent, Alors vous avez cité les grands narcotrafiquants dont certains, vous dites, sont dans l'État. Quelles sont les autres personnes qui les manipulent? Quelles sont les autres manipulations dont ils font l'objet?
Acabamos de la policía, por ejemplo, está investigando ahorita la inspectoría de la policía a altos jefes de la policía involucrados en este tipo de crimen organizado.
Donc en ce moment, par exemple, il y a des enquêtes au niveau de la police, policiers de haut rang, qui seraient mêlés à des trafics.
Tráfico de personas, trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción en el Estado.
Corruption dans l'État, blanchiment d'argent, passage des migrants.
Et eux, ces jeunes des bandes, sont les petits soldats perdus de ces guerres-là.
Claro, porque lo que... lo que muchas veces yo siento como que este tipo de problema de las pandillas es una forma de darle tanta prioridad a este fenómeno para anular otros problemas que son mucho más grandes.
Alors, le fait de focaliser sur cette question, sur la question des bandes violentes, des bandes armées, permet de dissimuler d'autres questions.
Merci à tous, merci à Hidalgo Santos de Escobar, président du Conseil national de sécurité, merci à Luis Romero, merci à Emily Ronfla et Carlos Ventura. Le film La Vida Loca sort en DVD. Et puis je vous rappelle, pour assister à l'enregistrement de l'émission avec le monde diplomatique qui aura lieu ce jeudi 11 mars de 18h à 20h à Paris, envoyez un mail avec vos coordonnées à lediplolajava@gmail.com, tout attaché, lediplolajava, donc enregistrement public dans Sing La Java. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Christian Thibodeau et Kamal Salifou. Croyez Nguyen et Raphaël Moutier de réaliser cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Lucie est sereine. Elle a choisi Autopass.
De la GMF.
L'assurance auto de la GMF qui en fait toujours plus pour elle et pour son budget.
Avec la GMF,
Lucie sait qu'elle fait 10% d'économie quand elle roule peu avec son auto ou quand elle prend les transports en commun. Et parce qu'elle a un véhicule plus propre, elle fait encore 5% d'économie.
Avec la GMF,
Lucie est sereine. Elle peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto, ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
16h45 secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. Les infos, Angélique Bouet. Salut.
Les deux directeurs des papeteries Conda, séquestrés depuis hier soir par des salariés en grève, ont été libérés à la mi-journée. Ils ont accepté de reprendre les négociations en présence d'inspecteurs du travail qui vont jouer le rôle de médiateurs. 90% des 660 salariés de cette usine située en Dordogne ont arrêté le travail depuis près d'une semaine. Ils réclament en effet des gouffes augmentations de salaire et l'embauche d'intérimaires. Il s'était suicidé à son domicile, mais le geste de ce technicien affecté au technocentre Renault de Guyancourt vient d'être reconnu comme étant un accident du travail. C'est la troisième fois que le tribunal des affaires de sécurité sociale rend ce type de décision au sujet de suicide de salariés travaillant dans ce technocentre situé dans les Yvelines, près de Paris. Sudrail a décidé de rejoindre les trois autres syndicats de la SNCF qui appellent à une grève le 23 mars prochain. Mais la fédération se distingue, elle appelle à un mouvement reconductible. Notons que c'est la troisième force syndicale à la SNCF. Plusieurs audiences reportées aujourd'hui dans certains tribunaux de province. À Paris, on ne signale que des retards. C'est une journée de grève, vous le savez, ce mardi. Grève et mobilisation dans le monde de la justice à l'appel de 17 syndicats du secteur. À Paris, des magistrats, avocats, éducateurs, personnels pénitentiaires et administratifs défilent en ce moment entre le palais de justice et la chancellerie contre les réformes en cours et pour réclamer plus de moyens au quotidien. Une manifestation soutenue par l'opposition, le PS, mais aussi le MoDem de François Bayrou. Remplacer les profs absents quelques jours par de jeunes retraités de l'éducation nationale ou encore des étudiants confirmés. L'idée lancée ce matin par le ministre de l'Éducation, Luc Chatel, fait des remous au sein des syndicats du secteur et de l'opposition. La FSU, principal syndicat enseignant, dénonce un bricolage et rappelle que l'on a supprimé des milliers de postes depuis 3 ans dans l'éducation nationale. Même tonalité au Parti communiste où l'on dénonce, je cite, une nouvelle casse du service public. En Charente-Maritime, l'armée a commencé ce matin son travail de restauration des digues endommagées par la tempête Xynthia il y a une dizaine de jours. Près de 90 soldats sont à pied d'œuvre. L'actualité à l'étranger, la police irlandaise a déjoué un complot qui visait le caricaturiste suédois qui avait dessiné le prophète Mahomet avec un corps de chien. C'était en 2007. 7 personnes de confession musulmane ont été arrêtées ces derniers jours. Elles projetaient, semble-t-il, d'assassiner le caricaturiste. Et puis le prince Ernst de Hanovre a été condamné pour coups et blessures par la justice allemande. Il devra verser 200 000 euros d'amende pour avoir infligé des gifles au gérant d'un hôtel au Kenya. C'était en 2000. Le mari de la princesse Caroline de Monaco était sorti de ses gonds en raison du bruit et de l'éclairage d'une discothèque voisine de la terrasse sur laquelle il dînait ce soir-là avec des amis. Peine moins lourde qu'en première instance. L'exposition consacrée au peintre Pierre Soulages a fait carton plein au Centre Pompidou à Paris. Elle s'est achevée hier. Près d'un demi-million de personnes sont venues admirer la rétrospective consacrée à cet artiste français de 90 ans. C'est la quatrième exposition la plus fréquentée du centre après celle consacrée à Dali, Henri Matisse ou Kandinsky.
Dans le prochain enregistrement du Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit
à la porte éclairée par deux ampoules
William Scheller.
Le long du trottoir ce soir il y aura fou.
Encore un coup de rein,
Alex Baupin.
Encore quelques efforts, encore amour, je viens.
Sonia Villers-Atherton et Bruno Fontaine.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle du 13 au 17 juillet. 5 jours de live, plus de 120 concerts. Diams, Miossec, Dominica, Gad Elmaleh, De Palmas, Bébé Brune, Fefe, Charlotte Gainsbourg, Wax Taylor. Retrouvez-les dans le programme de France Inter. Renseignements 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 11 mars au 10 avril Ciel, écrit et mis en scène par Wadji Mouawad aux Ateliers Berthier. Ciel, ou un huis clos multimédia oppressant. Une enquête palpitante, menée par des acteurs engagés et éloquents. Retrouvez Ciel dans les émissions de France Inter.
France Inter, la différence.
16h05 sur Inter, l'après-midi se poursuit en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Ce soir à Douai, un beau concert en perspective. L'orchestre de Douai, dirigé par Stéphane Cardon, salue la Russie. Vous savez que c'est l'année de la Russie en France, année culturelle. Et il y aura trois compositeurs russes pour se pencher sur notre berceau d'auditeurs, nous dit la notice. C'est-à-dire qu'on va évoquer quelques contes de fées, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, par exemple, et qui avait accepté cette commande malgré le peu de succès de son précédent ballet, Le Lac des Cygnes. Et finalement, c'est devenu... encore un incontournable, ça a mis un peu de temps peut-être, mais en attendant, cette musique est sublime, elle est pleine d'élan, de lumière, de joie, de vivre, d'ivresse, allons-y aussi. Oui, surtout dans la valse de Tchaïkovski qu'on va entendre maintenant, dirigée par le très regretté Rostropovitch.